Espace 2, Jean-Luc Rider.
Bonjour, aujourd'hui encore je vous souhaite la bienvenue dans un atelier du violon baroque. Musique en mémoire.
Musique en mémoire.
C'est un métier très différent de fabriquer des violons que de fabriquer des luths.
Non, c'est exactement le même métier, c'est les mêmes outils. Et puis, oui, en gros, c'est le même métier. Quand même, je découvre plein de différences très intéressantes. Un violon, c'est grosso modo 4 pièces, un fond, une table, une couronne d'éclisse, un manche, avec la tête en forme de volute. Alors qu'un luth, c'est un assemblage de 160 pièces différentes. Ça ressemble beaucoup plus à une maquette d'avion, comme je faisais quand j'étais petit.
Et pour le violon, alors ça va plus vite, ça va moins vite?
Alors, a priori, on a l'impression que c'est beaucoup plus vite fait, puisqu'il n'y a que 4 pièces, mais on y passe beaucoup plus de temps.
Qu'il soit baroque ou moderne, si le violon a une âme, Philippe Motériau est peut-être l'âme de l'atelier de musique ancienne auquel vous nous conviez, David Mestri. Bonjour David.
Bonjour Jean-Luc.
Toute cette semaine, nous allons donc à Gruyère, en votre compagnie, mais pas seulement à Gruyère, comme on va se rendre compte aujourd'hui, pour mieux imaginer ce qu'il y a comme secret à l'intérieur d'un violon baroque, mais aussi peut-être ce qu'il y a comme savoir-faire à retrouver, à redécouvrir pour faire sonner ces instruments, David Mestri.
Un violon ne serait rien ou presque sans un archet. Et d'ailleurs, les organisateurs de cet atelier de musique ancienne à Gruyère avaient invité pour une conférence au milieu de la semaine de ce festival un peu particulier qui voit la construction d'un instrument en parallèle à des concerts de musique ancienne. Mmh. Et ils avaient invité une conférencière qui est une archetière qui a Pignon-sur-Rue à Lausanne, Francine Humberdreau, qui construit des archets de toutes les époques, mais aussi...
Ah oui, moderne et baroque.
Voilà, aussi des archets très anciens. Et j'ai eu le plaisir de la rencontrer. Elle a montré au micro B les archets qu'elle prépare et la façon de les construire dans son atelier de Lausanne.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de bipèdes sur Terre qui soient archetiers. On en tient une, Francine Humberdreau. Rendons-nous chez elle.
Désolé, je suis encore plus tard que...
Pas grave.
Merci.
J'ai pu potasser, mais...
Ça sent bon. Très bien. Donc on est dans votre atelier ici, Francine Humberdreau, qui est plus petit qu'un atelier de luthier en général. Vous avez besoin de moins de place, bien entendu, puisque vous pouvez aligner les baguettes sur les étagères. Et je pense qu'il faut aussi des qualités d'hygrométrie. Il faut bien surveiller. Aujourd'hui, il fait assez chaud, hein, de nouveau. Ça ne fait pas trop souffrir vos baguettes?
Non, alors vraiment, ça, c'est pas du tout un problème, en fait, parce que j'utilise des baguettes qui sont sèches depuis très, très longtemps, donc au minimum 7 à 10 ans, donc le bois est tout à fait stabilisé. Et puis, nous n'avons pas des chaleurs tropicales, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là.
Par contre, les bois sont tropicaux, la plupart de ceux que vous utilisez, hein, donc il y a ce fameux pernambouc qui est depuis plusieurs décennies, même siècles, est utilisé comme, de préférence comme bois d'archet.
Oui, tout à fait. C'est un bois avec des fibres très longues. C'est un bois qui est originaire du Brésil, qui avait un usage au départ pour les teinturiers et puis qui a été mis en valeur et utilisé par Tourte, qui en a découvert vraiment les qualités. Mais il faut savoir que peut-être même avant lui, ce bois était usité aussi sous le nom de Brazil Wood, bois Brazil. Mais le pernambouc est une catégorie, disons, supérieure au Brésil, mais l'origine est semblable.
Et auparavant, on utilisait d'autres bois on a vu quelques archets que vous nous avez montrés lors de la conférence que vous avez présentée, Francine Humberdreau, au château de Gruyère, avec des archets notamment de musées, celui de Vienne qui en comporte un grand nombre, avec du bois de Mélèze, avec des bois beaucoup moins nobles que ce qu'on voit chez vous. C'est des bois qui ne sont plus du tout utilisés parce que c'est vraiment de la deuxième qualité.
Oui, en tout cas pour ce qui concerne, par exemple, les archets fru baroques, avant la période baroque, on utilise encore volontiers des bois indigènes, par exemple comme le hêtre, ou même quelquefois des bois fruitiers comme le poirier. Donc, c'est des bois qui ont des propriétés intéressantes, mais qui donnent des archets plutôt légers et qui peuvent avoir une nervosité et un rendu tout à fait intéressant.
Mais plus de fragilité que les bois utilisés depuis le fameux... archetier Tourte.
Alors, pas forcément, il résiste aussi très très bien dans le temps. Et c'est vrai qu'il mériterait d'être remis un petit peu au goût du jour. Il s'en tombe un peu en désuétude, mais personnellement, je fais aussi des recherches à ce niveau-là parce qu'il est bon de retourner un petit peu aux sources.
On va peut-être faire avec vous, Francine Imbert-Dreau, si vous êtes d'accord, une petite historique de l'archet, en remontant, je ne sais pas si à la préhistoire, mais en tout cas au tout début des instruments de notre tradition occidentale, ou peut-être ailleurs même, qu'on connaît. L'invention de l'archet, on n'a évidemment pas de date, mais dans les tableaux anciens qu'on connaît, l'archet primitif est une sorte de petit arc, tout simplement, comme son nom l'indique.
Oui, tout à fait. Déjà, dès le Xe siècle, on utilisait des archets très, très courts, surtout dans les pays asiatiques ou l'Inde, etc. Et ces archets étaient toujours convexes. Ils étaient très courts, donc ils permettaient des petits coups d'archet. À l'époque, on utilisait aussi des crins ou d'autres matières ligneuses. Ensuite de ça, par exemple ici, j'ai un petit archet dont la baguette est en hêtre.
Un bois très clair, oui.
C'est une copie d'un tableau qui a été fait à Anvers en 1532, et dans lequel on voit Apollon et ses muses. Et on voit une des muses qui joue un archet tout à fait semblable à celui-ci.
Qui joue d'une espèce de petite viole qui a la taille d'un violon qu'elle tient appuyée contre sa poitrine, c'est étonnant.
Tout à fait. Et c'est un archet qui est sans hausse, donc il fallait en jouer tout en surtendant la mèche pour produire un son régulier. C'est un archet très souple et tout à fait intéressant dans sa formule, bien qu'elle soit vraiment primitive, on va dire.
Vous avez parlé de hausse, Francine Imbert-Dreau, c'est une des parties essentielles de l'archet depuis l'époque baroque. Et c'est donc cette pièce un peu rectangulaire qui sert à tendre l'écrin du côté, donc au talon de l'archet.
Tout à fait. Alors à partir du XIVe siècle, on trouve des archets avec des petites hausses donc, qui permettent d'empoigner la baguette à pleine main, bien que l'archet soit tendu de façon fixe et vraiment inamovible. Donc on a un petit rehaussement. Là, on a un archet qui ressemble à un arc, un petit arc. Et on le saisissait à pleine main, qui donne une grande raideur au niveau du jeu, qui produit un son assez fort quand même.
Donc le but de la hausse, c'est de permettre de tenir l'archet sans avoir besoin de tendre soi-même avec le pouce ou avec les autres doigts, de tendre les crins qui y sont attachés.
Voilà, exactement. Ça donne quand même une petite liberté, entre guillemets, au niveau du jeu.
Effectivement, cet archet que vous nous montrez est vraiment comme un arc. On pourrait presque l'utiliser pour lancer des petites flèches. Je me pose la question, Francine Imbert-Dreau, les archetiers sont assez proches des gens qui fabriquent je pense, des arcs de grande précision, ou c'est un peu le même matériel que vous utilisez, le même travail que vous cherchez?
Oui, alors je connais malheureusement pas très bien le travail des spécialistes de l'arc. Vous voyez par exemple cet archet-ci, justement, est en bois de poirier, et donc il a quand même une certaine raideur, tout en ayant une certaine élasticité, donc il est intéressant à ce niveau-là. J'ai fixé du crin noir, c'est un crin qui permet de bien crocher et de bien agripper la corde.
Qui provient d'une autre race de cheval simplement? Parce que le crin blanc vient toujours de la même espèce de cheval, c'est C'est des chevaux sauvages dont on utilise les crins pour fabriquer les archers.
Oui, alors je crois savoir qu'il y a des élevages de chevaux, notamment au Canada par exemple, ou bien en Sibérie, ou naturellement chez les grands spécialistes en Mongolie, où on obtient des crins très très beaux, très soignés et bien travaillés.
Continuez peut-être historiquement comme ça votre liste d'archers sur votre table ici, Francine Berdreau. Vous nous avez montré on peut voir un peu 7 ou 8 archers de périodes différentes, et le suivant après celui qui avait cette forme d'arc ressemble déjà beaucoup plus à un archer d'aujourd'hui, mais il a cette forme pointue des archers baroques.
Tout à fait typique. C'est ce qu'on appelle l'archer du pré-baroque, époque de Monteverdi. Et donc, celui-ci se présente avec une hausse, qui est cette pièce indépendante dans ce cas-là. Nous avons une petite encoche dans laquelle vient s'encliqueter la hausse.
Elle est un peu mobile, alors on peut presque la déplacer.
Elle est mobile, on peut l'enlever et la remettre facilement. Et dès qu'on entend le petit clic, c'est un signe que la hausse est bien en place. Naturellement, un des inconvénients, c'est que la mèche risquait de s'allonger toujours davantage. Et donc, à cet effet, on a prévu des hausses de hauteur différentes afin de toujours forcer davantage la baguette et de maintenir la tenue.
On change souvent les crins d'un archer, Francine Berdreau?
Alors, idéalement, un professionnel, je pense qu'il va changer tous les 6 mois. Je pense que c'est la fréquence idéale pour obtenir un son égal et de très bonne qualité.
C'est-à-dire que les crins perdent de leur élasticité à force d'être joués?
Mais surtout de leur mordant, en fait. À un moment donné, on va dire que les crins commencent à savonner, entre guillemets, et ils ne crochent plus, et ça donne un maintien qui est assez désagréable. En fait, il n'y a plus de maintien, donc le reméchage est vraiment une étape importante, un entretien qu'il faut faire de façon tout à fait régulière.
En poursuivant la liste de ces archers, on voit qu'on va du plus court au plus grand, en fait. Plus on avance, plus on s'approche de notre époque, plus les archers se rallongent.
Oui, tout à fait. Alors, on assiste à une sorte de pyramide. Donc, c'est vrai qu'initialement, on part avec des archers d'environ 30 cm pour terminer avec des archers de 72 cm, 73 cm. Ici, entre deux, on a donc la période baroque. On a le début des archers à vis. Il faut savoir que les vis étaient produites par les gens qui fabriquaient les armures, notamment. Et naturellement, on a un réglage qui est beaucoup plus précis et beaucoup plus commode. Sur cet archet, on voit une tête très allongée.
Un petit bec.
Un petit bec. On va dire que c'est un archet de style Corelli. C'est un archet de sonate, donc qui s'allonge. C'est évidemment lié au phrasé et au type de musique que l'on souhaite interpréter. Ici, de la même époque, on a un archet cannelé. Donc, il est non seulement octogonal, mais chaque pan est évidé.
Très belle forme aussi, dans un bois qui a un très beau dessin de peau de serpent.
Oui, voilà, c'est le snake wood. C'est un bois qui vient du Suriname ou de la Guyane. C'est un bois très précieux et qui est magnifique pour réaliser des archets baroques. Alors ici, on a les cannelures qui nous apportent une certaine souplesse et une précision au niveau de l'attaque du son. Et c'est vrai qu'à mon avis, c'est un modèle d'archet absolument idéal.
Donc c'est plus léger parce que les cannelures creusent un peu dans le corps de la baguette et ça garde toute la force de la baguette.
Ainsi, on peut garder quand même le diamètre initial de la baguette tout en créant cet assouplissement sur les trois quarts environ de la baguette.
Ça, c'est des archets qu'on utilise pour jouer d'un violon de l'époque de Bach ou de Mozart?
Voilà, exactement, en tout cas de Bach. Oui, tout à fait. Alors, volontiers, c'est des archets qui sont très prisés pour ce répertoire.
C'est vrai que quand on parle de Mozart, on pense que c'est presque déjà de la musique ancienne, mais les archets modernes, ceux qu'on utilise aujourd'hui, sont des archets qui remontent à la fin du XVIIIe siècle, en fait.
Quand on dit archet moderne, en fait, on se réfère à 1750. C'est Tourte qui a vraiment accompli l'archet moderne en mettant un passon, une petite bague pour bien maintenir l'écrin. On ajoute un recouvrement de nacre. Et puis, surtout, la baguette s'est vraiment considérablement allongée.
Le recouvrement de nacre et le petit bouton qu'il y a de côté sur la plupart des archets qu'on voit aujourd'hui, Francine Imbert-Dros, c'est un élément uniquement décoratif. Ça avait une valeur symbolique, c'était une signature d'un archetier précis.
Alors, quand un archet est monté or, c'est vraiment dans un but décoratif. Et ça signifie que c'est vraiment un archet de luxe. Alors ça, c'est un aspect, disons, de l'archet moderne, mais on va plutôt parler de la différence fondamentale qui est, dans le fond, la concavité de la baguette. Voilà. Et puis, les archets dits modernes sont toujours en pernambouc. Donc, c'est vrai que c'est le bois idéal pour donner cette souplesse et cette nervosité à la baguette dite moderne.
Et alors le changement de, vous l'avez dit, de convexité en concavité, ça tient à quoi? Quel était le but recherché en ayant un archet qui maintenant fait un creux au lieu d'être arrondi comme un arc?
Alors on va dire qu'un archet concave donne une adhérence sur la corde d'une façon plus régulière et on va dire qu'il a, entre guillemets, un meilleur maintien par rapport à un archet qui était convexe. L'archet convexe, il est plutôt un archet articulateur qui permet de petites réalisations au niveau des ornements notamment, ou des doubles croches, triples croches, etc. Des notes très 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 rapides. Alors avec un archet convexe, on a vraiment une grande agilité qu'on perd un tout petit peu avec l'archet moderne, mais le compromis est très difficile à trouver en fait.
Le profit de l'égalité, alors l'archet moderne doit être égal que l'on frotte avec le talon ou la pointe, c'est un peu ça qui a été recherché.
Tout à fait, c'est une régularité du talon à la pointe.
L'art de l'archetier est entre la lutherie et l'orfèvrerie aussi. Il y a souvent, vous avez dit qu'il y avait des pièces d'or, ici on voit aussi ces boutons de nacre et cette précision dans la découpe de la baguette. Quelles sont les étapes de la fabrication d'un archet comme ce que vous faites habituellement, Francine Imbert-Dros?
Alors la toute première étape, c'est de se rendre chez un fournisseur, un exportateur de bois, et de trier des troncs, des planches, etc. De faire la meilleure prise, entre guillemets, possible. Ensuite de ça, je vais débiter les troncs, les grumes sous forme de planches. Et puis à partir de là, commence vraiment le travail d'archetier. Donc je vais débiter les baguettes. Ensuite de ça, avec mon rabot, je vais écarrir ces baguettes tout en soignant vraiment la diminution, la régularité au niveau des progressions. L'étape suivante, qui est toujours délicate et très très précise naturellement, c'est l'octogonalisation de la baguette. Et puis ensuite de ça, je vais tailler la pointe, la tête de la baguette. Et ensuite de ça, je vais m'occuper du côté de la hausse de faire une mortaise afin que la hausse puisse coulisser d'avant en arrière pour tendre l'archet. Je tiens à préciser qu'il y a différentes méthodes et différents types d'étapes qui sont liées aux diverses écoles d'archeterie. C'est vrai que les Allemands ne fabriquent pas de la même façon que les Français ou que les Anglais, par exemple. Moi, j'ai plutôt la méthode anglaise, entre guillemets. C'est celle que je connais le mieux.
Quelles sont... Il y a des grosses différences ou bien ça donne un archet quand même assez semblable?
Oui, donc au niveau du résultat, c'est très très semblable. Simplement, les outils sont un peu différents et puis l'ordre des étapes peut être aussi différent.
Parce qu'il faut donner une cambrure aussi à cet archet. Vous avez la baguette dans la main qui a pris sa forme. Vous partiez d'une baguette qui était entièrement droite au début.
Tout à fait. Alors ça, c'est une étape très délicate. C'est la cambrure de la baguette. Donc il s'agira de chauffer de façon régulière et très forte quand même cette baguette afin d'avoir une cambrure tout à fait régulière de la tête à la hausse. Idéalement, on chauffe en trois fois, c'est-à-dire tout d'abord derrière la tête, ensuite avant la hausse, et puis on termine pour tuiler la baguette au milieu.
Et puis une fois cette cambrure faite, placez la hausse avec ce petit trou que vous avez mis pour faire coulisser en évidant la baguette pour introduire la vis, donc au talon de cet archet. Il va falloir
ajuster la hausse très finement, évidemment. Et puis, une fois qu'on a mis les crins, il faudra contrôler la cambrure et la rectitude. Et souvent, à ce niveau-là, on rechauffe un tout petit peu la baguette pour la corriger et puis lui donner son aspect final.
Parce que certaines baguettes sont octogonales, mais d'autres sont aussi cylindriques.
Sont rondes, oui, tout à fait. Et ça, c'est lié à l'esthétique que l'on souhaite avoir. Et aussi au type de bois que l'on a et aux épaisseurs qu'on a laissées et au souhait du musicien aussi. Enfin, c'est une question de goût bien souvent aussi.
Thank you.
Là, vous ouvrez devant moi, Francine Imbert-Drault, un très bel ouvrage. Un des volumes, il y a plusieurs volumes, de l'archer de Bernard Milan, c'est ça ?
Alors ici, j'ouvre la page au hasard, mais ça tombe vraiment très très bien parce qu'on se trouve devant des photos d'archets qui ont été faites par Dominique Pécat. C'est un archetier français qui a vécu de 1810 à 1874. Il a fait des archets vraiment de toute grande classe.
C'est un des grands noms, alors, à côté de Tourte, de l'archetterie.
Oui, alors évidemment, c'est après Tourte, hein, c'est plus tardif. Mais vous voyez, par exemple, ici, un choix des bois qui est extraordinaire. C'est des bois de Pernambouc de tout premier ordre. Et puis, ici, par exemple, on a une version luxueuse du travail de Pécat, avec une hausse montée écaillée or.
Alors, le bois d'ébène, oui, la hausse, donc au talon de l'archer est en écaille, un peu comme des montures d'écaille.
Oui, ça donne un style un petit peu curieux. L'écaille vieillit mal si on ne la polie pas régulièrement, si on s'en occupe pas. C'est très précieux, c'est très soigné. Il y a un avantage, c'est que ça donne des hausses quand même assez légères et qui donnent cette impression de luxe. Oui.
Voilà, et puis une analogie avec le bois de la baguette, puisque c'est un peu cette couleur-là et c'est ces flammes qui correspondent aux flammes du bois. La baguette, vous avez fait déjà des archets avec de l'écaille, vous, Francine Imbert-Drault ?
Alors écoutez, personnellement pas, je n'ai pas eu cette occasion. Et c'est une technique quand même très très particulière que je n'exerce pas. Mais je crois savoir que l'écaille, le travail d'écaille est aussi interdit en Suisse. Donc il y a un petit côté écologique qui me retiendrait quand même à travailler ce matériel.
Ah, on utilise des écailles de tortue et on maltraiterait ces animaux ?
Oui, tout à fait. Alors ici, vous voyez, on a un magnifique aussi archer avec une hausse en ivoire qui est toute
tout sculptée,
ciselée, etc.
Le relief, très jolie figure. C'est du travail de précision, ça c'est vraiment de l'orfèvrerie.
Oui, exactement, donc ça c'est très important de ne pas oublier Dominique Pécat. Voilà.
Un bon archer, j'imagine, Francine Imbert-Drault, doit aussi bien vieillir. On a parlé de ces archers recherchés qui étaient construits au XVIIIe siècle. C'est un instrument qui doit pouvoir durer pratiquement toute la vie d'un violoniste lorsqu'on a le bon bois et lorsqu'on a le bon métier.
Oui, alors on trouve dans les musées, par exemple, des archers qui ont 200 ans d'âge, qui sont extrêmement bien conservés. Et donc un archer est fait vraiment pour durer. Ce que le violoniste doit savoir, c'est que le reméchage doit être fait de façon régulière.
C'est-à-dire de remplacer l'écrin, c'est ça ?
Voilà, ça c'est une chose importante. Et puis, il est important que l'archetier contrôle aussi toujours l'état d'ajustage de la hausse, puisqu'il y a quand même un mouvement de mécanique. Et c'est de ce côté-là que souvent se fait l'usure à travers le temps aussi. Mmh. Et puis, naturellement, il faut toujours contrôler la rectitude de la baguette, que la cambrure reste bien égale.
Ce qui est important donc pour le jeu sur les cordes.
Voilà.
On peut avoir des accidents d'archet dans un concert pour un violoniste, comme une corde qui claque, ça arrive assez moins souvent, je crois.
Alors ça peut arriver quelquefois, il y a en effet toutes sortes d'accidents qui peuvent être liés au reméchage éventuellement, où la mèche sortirait et puis tel un fuseau, elle sort de la baguette.
Mais par où elle sortirait? Alors c'est parce qu'on n'a pas bien attaché la pointe?
Ça peut être par exemple la petite pièce de bois qui aurait pu lâcher ou sortir, et puis, ou alors le nœud au bout de la mèche qui aurait été mal fait, puis voilà là. Mais bon, ça arrive heureusement assez rarement, mais ça peut arriver. Et puis c'est vrai que l'archet est un objet très très fragile, puisque derrière la tête on a quelquefois seulement 5 mm, donc il suffirait éventuellement qu'il tombe et puis il est cassé.
Thank you.
Trio pour violon, violoncelle et piano en la majeur de Jean-Chrétien Bach, là par Stefano Barneschi, et je vous prie de noter que l'archer que joue M. Barneschi est un archer Francine Berdreau, mais aussi Marco Testori et Pierre Goy pour cet enregistrement dans Musique en mémoire qui vient là illustrer cet atelier du violon baroque que
et
vous
de
faites
aujourd'hui,
visiter
aujourd'hui.
Et de l'archer David Mechery. Aujourd'hui, oui, mais de quoi sera-t-il question demain, David ?
Retour au violon et à la classe de violon qui avait lieu aussi pendant cette semaine gruérienne,
oui.
Atelier de construction d'instruments, concert de musique ancienne et cours de maître de violon. La maîtresse de ce cours de violon, c'est Claudia Hoffmann, une jeune violoniste allemande, que nous allons écouter pour la découvrir maintenant dans des pages de musique italienne, accompagnée au théorbe par Thurston Bley.
Thank you. Thank you.
Giovanni Antonio Pandolfi Meali, mais aussi Carlo Farina et Angelo Notari, quelques pages de musique italienne, l'a interprété au violon baroque par Claudia Hoffmann, Thorsten Bleich, théorbe et guitare baroque, et Matthias Müller-Mohr pour ce qui est du Lyrone. Claudia Hoffmann, aujourd'hui elle joue, mais demain elle cause, David Mestri, puisqu'elle sera votre invitée demain.
Oui, pour la troisième partie de cette série autour de l'atelier du violon baroque.
Merci beaucoup David Mestri. Sachons aussi nous souvenir que cette émission peut compter sur l'assistance de production d'Isabelle Watson et que c'est Dominique Stalder qui cette semaine signe là cette réalisation d'une proposition de Jean-Luc Rider.
Notre adresse internet, espace2.ch. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24.
L'affaire vous intéresse ? Je peux le comprendre. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit dès minuit en nouvelle diffusion sur Espace 2. Francine Aberdreau à minuit, Claudia Hoffmann demain à 9h. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments, pourquoi pas ici ou là, à l'écoute d'Espace 2. Bye bye.
Espace 2, Catherine Buzer.
Bonjour à tous et bienvenue.